Désolé pour la projection qui n'a pas marché. Ceux qui connaissent le chant ont entendu les paroles. Ce beau week-end pascal, vous êtes entré dans un lieu magnifiquement fleuri par les mains de Denise. Voilà, moi je ne saurais pas faire ça. C'est magnifique. Voilà, vous vous sentiez tous accueillis dans la présence du Seigneur, d'où que vous veniez, quel que soit votre état d'esprit ou votre morale. Week-end pascal, le vendredi, après 3 ans passés à côté de quelqu'un d'extraordinaire, pour la poignée de disciples, tout est fini. Aucune libération n'est intervenue. Les rêves sont brisés. Jésus a été condamné, crucifié, rapidement mis au tombeau avant le coucher du soleil, sans cérémonie. Samedi, rien. Shabbat. Dimanche matin. Très tôt, le dimanche matin, les femmes se rendirent au tombeau en apportant les huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du tombeau avait été roulée de côté. Elles entrèrent mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient qu'en penser. Lorsque 2 hommes aux vêtements brillants leur apparurent, comme elles étaient saisies de crainte et tenaient le visage baissé vers la terre, ces hommes leur dirent « Pourquoi cherchez-vous ici ? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est revenu de la mort à la vie. » Rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré à des pécheurs, qu'il soit cloué sur une croix, qu'il se relève de la mort le 3e jour. Elles se rappelèrent alors les paroles de Jésus. Elles quittèrent le tombeau et allèrent raconter tout cela aux 11 et à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elles firent le même récit aux apôtres. Mais ceux-ci pensèrent que ce qu'elles racontaient était absurde et ils ne les crurent pas. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandes de lin. Puis il retourna chez lui, très étonné de ce qui s'était passé. La résurrection, dans les évangiles, c'est un non-événement. La crucifixion a eu lieu en public. Personne n'a vu Jésus ressuscité, le verbe ER. Mais plusieurs, même beaucoup, ont rencontré le ressuscité, E accent aigu. C'est quelque chose d'incroyable qui est là au cœur de la foi chrétienne, qui nous interpelle, qui nous interroge, et qui, quelque part, nous met devant la question fondamentale de savoir si notre vie a un sens ou pas. Je repensais à cette dernière phrase du livre de Jacques Monod, là, il y a un demi-siècle. « L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers, d'où il a émergé par hasard, non plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part. Cette phrase d'un biologiste athée, pour qui la vie n'a pas de sens. Et en contraste, ce message de l'Évangile qui nous dit que la vie est plus que ce morceau de vie que nous avons ici et qui se termine, qui ouvre un chemin vers le Père qui nous révèle dans son existence. Peut-être que ce matin, pour certains d'entre nous, on est plus dans l'état d'esprit du vendredi, avec des rêves brisés ou avec des prières inexaucées qui donnent le sentiment que Dieu n'est plus là, ou pas là, ou peut-être que les foi sont ébranlées. Ou peut-être qu'on arrive à être vraiment dans la joie de ce jour de résurrection. Mais quelle que soit notre situation, Dieu peut nous rejoindre ce matin et nous donner cette espérance dont Philippe va nous parler dans son message. Voilà, je vous propose qu'on prie ensemble, puis ensuite on aura un moment de louange par le chant que nous ont préparé l'équipe de Xavier Schmitt. Seigneur, toi qui es la vie, toi qui es vivant aujourd'hui, viens nous rejoindre dans nos existences, et particulièrement si ce matin nous nous sentons peut-être découragés, viens nous aider à saisir que tu as un projet pour nous, un Père qui nous accueille, que nous sommes aimés et appelés à aimer à notre tour, comme tu nous as aimés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous arrivez à projeter ?
Ok. J'invite à vous lever.
Tu nous appelles tous sainte-cive et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur.
J'ai pas des péchés, flash.
je l'ai battu, cloué sur une croix. Ô puissance de la croix, Christ fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Montre-moi l'angoisse gravée sur ta face, tu portes le poids du péché. Nos pensées amères, nos actions mauvaises, couvrent ton front sanglant. Ô puissance de la croix, Christ fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. La lumière se voit et la terre tressaille. Se réveille et Christ est accompli. Ô puissance de la croix, Christ est fait péché pour moi. Prends sur lui. Je suis pardonné à la croix. Montre-moi mon nom gravé dans tes mains, transpercé pour me libérer. La mort est vaincue, la vie m'est donné par ton amour parfait. Ô puissance de la croix, Christ fait péché pour moi. Prends sur lui. C'est toi qui as reçu les coups que je méritais. C'est toi qui as tombé la colère qui me revenait. Et c'est par tes blessures que je suis guéri. C'est par ton sang que je suis libre aujourd'hui. Sentez la main qui m'a touché, ta compassion. passion qui m'a lavé. À toi la gloire, la majesté et l'honneur pour l'éternité. C'est toi qui as couvert ma honte et ma nudité. De ton amour et ton pardon, de ta vérité. C'est par ton sacrifice que je suis rachetée. Sur la croix tu m'as offert ta liberté. Ce sont tes larmes qui m'ont touché, ta compassion qui m'a lavé. À toi la gloire, la majesté et l'honneur pour l'éternité. C'est toi qui as été trahi et abandonné. C'est toi qui as été brisé pour tous mes péchés. Et ce sont ces mêmes mains que les hommes ont percées, que tu as tendues vers moi pour me relever. Ce sont tes larmes qui m'ont touché, ta compassion qui m'a lavé. À toi la gloire, la majesté et l'honneur pour l'éternité. Tes larmes qui m'ont touché, ta compassion qui m'a lavé. À toi la gloire, la majesté et l'honneur pour l'éternité.
Merci Seigneur pour ton sacrifice, notre souvenir plus particulièrement en ce week-end de Pâques. Merci pour ton sacrifice et merci surtout d'être ressuscité, mort pour nos péchés. Et merci pour cet amour parfait que tu as fait preuve, Seigneur. Je te remets Philippe dans sa prédication, que tu puisses poser ta main sur lui et qu'il puisse être ton instrument pour édifier ton église et te rendre gloire, Seigneur. Amen.
Bonjour à chacun, chacune. Les enfants, ce matin, c'est un peu spécial parce que vous restez avec nous. Alors, les plus petits, il y a une garderie, hein, je crois que c'est jusqu'à 3 ans, 4 ans. Qui c'est qui peut confirmer les âges ? 4, merci, décidément. Mais si vous avez plus que 4 ans, vous pouvez rester avec nous et c'est super sympa que vous soyez là. Et c'est un jour important aujourd'hui, les enfants. Hein. Qu'est-ce qu'on fête, les enfants, aujourd'hui ? Luca ? La résurrection de Dieu, la résurrection de Jésus. T'as super raison, Luca, bravo. Une autre réponse, qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui, les enfants ? Luca, il a tout dit. On fête la vie. On fête la victoire sur la mort. Et ça vous fait peur des fois, la mort, les enfants ? Ouais. Moi, ça me fait un peu peur, la mort. Mais j'apprends quelque chose aujourd'hui de super important. C'est que ce n'est pas la mort qui a le dernier mot. Parce que Jésus est ressuscité. Et Waouh, quand on meurt, écoutez la parole des enfants. Quand on meurt, la vie sur terre, c'est fini, mais ça continue avec Dieu. Merci Luca. Joyeuse Pâques. J'ai hésité en préparant la méditation de ce matin. Parce que la résurrection, moi, ça me fait vibrer. Et j'ai très envie de beaucoup parler de résurrection et de vie nouvelle et de la vie qui continue, de la vie qui prend le dessus. Et puis, ces dernières semaines, ces derniers mois, dans l'église de Mérin, dans vos familles, dans nos familles, nous avons connu des deuils. Quelques-uns se sont séparés d'une épouse, d'un époux, d'une maman, d'une grand-maman, d'un oncle, d'un ami, d'une amie. Et puis, en même temps que nous vivions cela, il y a encore quelques jours, il y avait la perspective de Pâques. Et il me semblait difficile pour moi, ce dimanche, de simplement passer à la résurrection. Pâques. Il y a eu à Pâques un mort et un enterrement. Un peu comme ce que nous avons vécu. Ce que vous avez vécu en famille, ce que nous avons vécu en église, un mort et un enterrement. Quand je conduis des obsèques, je rappelle généralement aux gens présents le but de la cérémonie, pourquoi on fait des obsèques. Et je le rappelle dans trois directions. Dans un premier temps, il s'agit de se séparer de ce qui reste de la personne. Pas du souvenir que l'on entretient, mais de la dépouille mortelle. C'est un processus qui est exigeant. Il peut prendre des années, une vie. Il s'agit pour nous, chrétiens, chrétiennes, d'entourer la famille de notre plus vive affection. C'est là quelque chose d'essentiel. Et puis, il s'agit d'écouter, de recevoir et donc d'annoncer l'évangile de la résurrection. Ça, c'est crucial. Permettez-moi de développer un peu. Il faut marquer la séparation. Nous avons beaucoup de mal à accepter le côté définitif de la mort. J'entends dire à propos d'un comédien français récemment décédé, il n'est pas mort. Il nous a fait une blague. J'entends dire souvent, il est toujours là. Elle est toujours là. Il nous regarde, elle nous regarde, on lui parle. J'ai même entendu, il y a quelques années, au bord d'une tombe, tu ne pleures pas, tu es chrétienne. Reconnaître que l'on n'en revient pas. Reconnaître que c'est définitif, les gens ont beaucoup de mal avec ça. Donc c'est une cérémonie, les obsèques, qui doivent les aider, nous aider, à faire leurs adieux. Est-ce que Jésus a eu droit à une cérémonie? Sans doute pas. Vendredi, en fin d'après-midi, juste avant le début du sabbat, tout le monde était pressé. Il a fallu l'enterrer à la va-vite. Le sabbat allait commencer. Interdiction de porter quoi que ce soit. Interdiction de toucher un mort. Interdiction de travailler à quoi que ce soit. Un linceul, une tombe à proximité de la colline de Golgotha. Peut-être une prière prononcée par Joseph d'Arimathée devant une poignée de proches. Puis le grincement d'une énorme pierre ronde et plate que l'on roule dans sa rainure. Et le son lourd et creux de l'arrêt. Puis plus rien. Est-ce ainsi que l'on se sépare du corps d'un fils, du corps d'un ami? Non, c'est trop sommaire. Ses proches ont eu des heures pour le voir souffrir quand il était à l'agonie, mais ils n'ont pas eu le temps de l'enterrer convenablement. Il faudra revenir pour terminer tous les soins mortuaires. Sinon, où est le respect? Tout n'a donc pas pu se dérouler dans les règles. Impossible de faire le deuil, impossible de marquer la séparation, impossible. Second slide, si tu y arrives. Le deuxième. Si tu veux revenir en arrière. Merci. Il faut entourer d'affection les proches. Lorsqu'il y a des obsèques, les proches doivent être accompagnés, consolés, soutenus. C'est essentiel. Et de ce point de vue aussi, Jésus a eu droit à un enterrement bâclé. Ses proches étaient dispersés. Sa mère était là, assistée par Jean, fils de Zébédée. Mais les frères de Jésus étaient aux abonnés absents. Ses supporters les plus proches ne voulaient absolument pas se faire connaître. Ils étaient sans doute terrés à la campagne. Il y avait quelques femmes qui étaient là. Courageuse, avec le propriétaire du caveau, Joseph d'Arimathée. Texte biblique nous parle de cet homme comme étant un disciple en secret par peur des autorités. Eh ben moi, des disciples en secret comme lui qui se mouillent au moment décisif, j'en redemande. Un petit groupe bien triste, pitoyable. Les rescapés d'un naufrage, le dernier carré des fidèles, restés ensemble après le désastre. Il faut marquer la séparation. Il faut entourer d'affection les proches. Et quand la mort est là, il faut entendre l'évangile de la résurrection. Et aujourd'hui, lors d'obsèques, nous devons entendre l'évangile de la résurrection. L'entendre comme une vraie consolation, nous devons dire cet évangile de la résurrection parce qu'il est au cœur de la foi chrétienne. Nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité. Il faut entendre l'évangile de la résurrection. Mais là, au jour de la croix, devant le tombeau scellé, d'évangile de résurrection, il n'y en avait pas. Il y avait des espoirs, oui, des espoirs. Parce que tout juif pieux avait l'espoir de ressusciter le dernier jour. L'antique prophète Job le disait, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et que je le verrai, moi, le dernier jour. » Mais là, au jour de la croix, devant le tombeau scellé, la question se posait, « Est-ce que Jésus faisait partie des justes ? S'il avait été juste, Dieu ne l'aurait pas abandonné entre les mains des impies. S'il avait été juste, Dieu n'aurait pas permis ce déchaînement d'injustice et de violence. S'il avait été juste, Dieu l'aurait sauvé de la croix, Dieu l'aurait délivré, Dieu l'aurait justifié et tout le monde aurait cru. Tout le monde avait cru qu'il était juste, qu'il était le juste, le Messie, le Sauveur. Au bout du compte, piètre médecin, qui n'avait pas pu se guérir lui-même. Tout le monde s'était trompé sur son compte. Il allait falloir faire le deuil, non seulement de sa personne, mais encore de l'espoir qu'il représentait. Vendredi soir, les lampes du sabbat s'allument avant même que le soir vienne et que la nuit tombe. La nuit tombe sur Golgotha. La nuit tombe dans le cœur de Marie et de Jeanne, de Pierre et de Jean, que plus jamais il ne fasse jour. Dans le deuil, on arrive souvent à faire face à certaines obligations, mais dans les moments creux, on est comme assommé. Samedi, triste samedi où tout travail est interdit, où toute prière a le goût de la cendre, où toute pensée s'embourbe, où toute énergie s'étouffe. Dimanche, les obligations, les soins mortuaires au petit matin, avant qu'il ne fasse trop chaud, avant que l'odeur ne devienne trop insupportable, les derniers gestes, les derniers devoirs. Et se préparer ensuite à supporter ce que les gens disent. La vie continue, tu t'en remettras, tout le monde s'en remet. Et voilà le dimanche de Pâques. Apparemment, c'est la fin, la fin de la fin. Les mères le sifflent, il fait frisquet. On voit des gouttes de rosée sur les toiles d'araignée. La nature s'éveille, Jérusalem s'éveille, et les gens continuent de faire ce qu'ils ont toujours fait. Quelques femmes se traînent jusqu'au tombeau de Jésus. Elles parlent, mais leurs paroles semblent déplacées, incongrues, inconvenantes. Chaque mot est un mot de trop et en même temps, le silence serait insupportable. Je vous raconte la suite de l'histoire. Vous la connaissez. Elle ne vous surprendra pas ou pas totalement, mais elle a surpris tous les témoins directs. On vient annoncer que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Vous auriez dit quoi, vous? J'ai déjà donné. J'ai cru une fois quand il était vivant. Pensez, je ne peux pas croire maintenant qu'il est mort. Ou alors, repose-toi bien, prends tes gouttes, ça ira mieux demain. Ou alors, comme les deux là qui s'en vont à la campagne à Emmaüs, bah, c'est ta version, hein. Tu as le droit de croire ça si tu veux, hein. C'est ta version, mais nous on n'y croit pas, les valises sont faites, on se casse. Mais il y a eu un certain nombre de personnes qui ont cru. D'abord, les femmes, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Josès, Salomé, Jeanne, elles ont cru. Il est frappant que les quatre évangiles donnent les femmes comme premiers témoins de ce qui s'est passé. Le témoignage des femmes ne comptait pas en justice. La loi juive les considérait comme insuffisamment instruites. Si vous vouliez donc une liste de témoins officiels, vous deviez avoir des hommes, pas des femmes, des hommes. Mais les premières qui croient, les premières à qui Jésus s'adresse, les premières qui sont chargées d'annoncer l'évangile de la résurrection, ce sont des femmes. Quand Paul donne un résumé de la résurrection, en 1 Corinthiens 15, c'est un récit de deuxième main. Il ne cite pas de femme, mais les quatre évangiles commencent par elle. Ils font le contraire de ce qu'aurait fait un faussaire. Un faussaire n'aurait pas cité les femmes. Mais les évangélistes sont tellement marqués par ces témoignages, par ces émotions, par cette foi, qu'ils ne peuvent pas les taire. Il y en a qui croient. Ensuite, les gardes romains. Alors, eux, ils ont un énorme problème. Parce que dans la loi romaine, un prisonnier qui s'évade, c'est l'exécution des gardiens. Dans les Actes des apôtres, cette loi appliquée apparaît trois fois, au moins. Et cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un prisonnier, il s'agit d'un mort qui s'évade. Ils doivent aller dire à leur supérieur que le tombeau qu'ils gardaient et qu'ils avaient renforcé, nous dit le texte biblique, est vide et que son occupant a disparu. À leur manière, le texte biblique nous dit que les gardes croient que quelque chose s'est passé. Ils sont profondément troublés. Ils apprennent la version officielle. Elle est destinée à calmer l'opinion publique. Mais ils vont la diffuser parce qu'ils ne croient pas à la version officielle. Ils savent bien, eux, que Jésus est ressuscité. Et leur silence, nous dit le texte biblique, doit être acheté. Que les disciples aient volé le corps à d'autres. Les femmes, les gardes, et quelques disciples ont cru. Jean, l'apôtre, le fils de Zébédée, celui pour qui la foi sera au cœur de ses écrits, l'enjeu principal de la vie du croyant. Sans foi, le verbe pisteio, croire dans son évangile, il martèle l'appel à croire en Jésus. Marie de Magdala est venue chez lui pour lui dire que le tombeau était vide. Et il l'a vu, ce tombeau vide, et la drôle de façon dont les linges mortuaires étaient disposés à l'intérieur. Pas comme si quelqu'un avait pris le corps, parce que les linges seraient partis avec le corps. Pas comme si Jésus s'était débattu avec ceux qui l'entouraient, parce que les linges étaient disposés comme si Jésus était passé au travers d'eux, pliés, nous dit le texte. Quand Jean a vu ça, quelques prophéties de l'Ancien Testament ont commencé à clignoter dans sa tête, et Jean a cru. Et Pierre, lui aussi, a cru. Il était le plus abattu de tous, le plus honteux, le plus inconsolable. Pierre le crâneur, Pierre l'absolu, Pierre qui avait tout renié en l'espace de quelques instants, Pierre le meneur, le leader qui s'était dégonflé. Pierre aussi a cru, parce qu'il a vu le Seigneur. Avant le soir, avant les autres, le Seigneur est réellement ressuscité, disent-ils, et il est apparu à Simon-Pierre, Luc 24, verset 34. Nous sommes le dimanche soir. Il n'est pas nécessaire de détailler la suite des événements. Les apparitions de Jésus aux deux disciples d'Emmaüs, le feu qui remplit leur cœur. Les apparitions de Jésus aux 10, puis aux 11 apôtres avec Thomas. Son entretien cœur à cœur avec Pierre, Jean 21, la restauration de Pierre. Et dans la suite immédiate, quelques jours après, le feu animé en leur cœur par le don du Saint-Esprit, la Pentecôte. Cette présence intérieure, intime et forte de Jésus en chacun d'eux. Le courage, la joie, le zèle qui les anime pour proclamer l'évangile du salut partout et à tous. Permettez-moi simplement pour conclure de mettre en évidence ce que ces quelques éléments signifient. D'abord, Jésus n'était pas un imposteur. mais il était et il est réellement le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur, le Seigneur. Si nous lui faisons confiance ce matin, nous ne nous trompons pas de crèmerie. Quels que soient les signes extérieurs, il est le Seigneur. Ensuite, la mort n'est pas la fin. Tout ne s'arrête pas avec le cœur qui ne bat plus. Tout ne s'arrête pas avec l'inhumation ou la crémation. Il y a réellement un après la mort, même si la mort reste difficile à confronter, même si elle brise nos cœurs, même si elle fait couler des larmes, elle est vaincue. Pour nous, le meilleur et de loin est à venir. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Si tout ce que vous investissez dans votre foi dans le Seigneur Jésus, c'est pour ici et maintenant, pour une prochaine voiture, une prochaine maison, un prochain conjoint, la réussite des examens, une guérison, que sais-je, si c'est juste dans cette vie que vous mettez vos billes en Jésus, vous êtes les plus malheureux. Parce que l'essentiel est à venir. Parce que le meilleur est à venir. Et que nous espérons en Christ, non seulement pour maintenant, et moi le premier, mais nous espérons en Christ pour le plus important, la vie éternelle, la vie à venir. Le sacrifice, celui que Jésus a présenté, son sacrifice n'a pas été vain. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Sans effusion de sang, pas de pardon, l'amour couvre une multitude de péchés. Il a expié nos fautes, il a payé nos péchés, c'est fait. Il a pris sur lui notre culpabilité, il nous a rendu Dieu favorable, c'est fait. Il nous a ouvert le chemin du Saint des Saints, de la communion retrouvée avec Dieu. Dieu est avec nous, c'est fait. Et désormais, nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Nous pouvons, nous, marcher d'une façon qui l'honore, pas comme des gens parfaits, pas comme des gens religieux. Laissez-moi ça au vestiaire, ça ne vaut rien. Mais comme des hommes et des femmes, comme des jeunes et des moins jeunes qui aiment le Seigneur et qui veulent l'honorer. Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie ou de méchanceté, mais avec des pains sans levain de sincérité et de vérité, des hommes et des femmes sincères et vrais. Jésus est aujourd'hui et pour toujours le chef d'un peuple nouveau, sauvé d'un esclavage bien pire que celui de l'Égypte, un peuple sauvé à jamais de la mort éternelle, et promis à un avenir glorieux avec lui. Apocalypse 21, les versets 1 à 4. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux ». Ils seront ses peuples et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Ça, la croix l'a inauguré. Seulement voilà, aujourd'hui nous sommes le 21 avril 2019. Et puis on a les deux pieds sur terre. Et puis il n'est pas toujours facile de vivre cette vie-ci où le malheur atteint souvent le juste. Psaume 34, verset 19. Cette vie-là, nous la vivons en tension, n'est-ce pas? Nous sommes minoritaires, moqués, parfois persécutés. Ce matin, au Sri Lanka, il y a eu une vague d'attentats dans des églises chrétiennes. Une heure après les attentats, ils annonçaient au moins 200 morts. Les chrétiens pourraient être tentés de vivre en cercle fermé. Mais la résurrection de Jésus-Christ nous pousse en avant. Elle nous encourage, elle nous motive. Il est réellement ressuscité. Il nous aime, il nous comprend, il nous soutient. Rien ne peut nous séparer de son amour. Il ne nous lâchera jamais. Il nous fait confiance, il nous responsabilise. Il nous veut avec lui comme il est avec nous. Et au bout du bout, malgré les luttes et les chutes, malgré les angoisses et les passages à vide, malgré les échecs et les désillusions, malgré la mort, la victoire est assurée. La victoire est assurée. Apocalypse 17, verset 14. Ils feront la guerre à l'agneau, mais celui-ci les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Les siens, ceux qu'il a appelés, les élus, ceux qui lui sont fidèles, vaincront avec lui. Il est réellement ressuscité. Ça change tout. Je sais où je vais. Je sais avec qui j'y vais. Et je sais pourquoi j'y vais. Le Seigneur est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Amen.
Avant de passer à la suite, je voudrais vous inviter à méditer ce que Philippe nous a apporté ce matin. Avec l'inacceptable, l'incroyable et l'indépassable, en chantant ce chant, « Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. »
Tu m'aimes, je
je me prosterne, où ton sang coule pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. Viens, tu tout s'effondrait devant mes yeux. Tu resterais là. Je sais que tu ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer.
Le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples, il leur dit jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. C'est où, c'est quand ce royaume? C'est un peu les questions qui ont été abordées dans les ateliers bibliques pour ceux qui étaient là. On était un petit peu entre voilà, le risque de projeter ce royaume dans un au-delà complètement désincarné, ou alors de vouloir essayer de calculer les lieux et les temps. Le partage du pain et du vin, c'est quelque chose de très concret. Ce pain qu'on va partager, c'est partager la vie, la manière de vivre de Jésus. C'est donc entrer dans le concret de la vie de Jésus pour commencer à vivre ce royaume. C'est ça, à ça qu'il nous invite. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit « Prenez ceci ». C'est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Jésus leur dit, ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Je ne boirai plus jamais de vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Notre Dieu, notre Père, merci pour cet amour suprême révélé en Jésus-Christ. Nous faisons mémoire de ta vie donnée pour nous, mais nous voulons aussi partager ta vie au quotidien. Tu nous as pardonnés pour nous rendre capables de pardonner. Tu nous as aimés pour nous rendre capables d'aimer comme tu nous as aimés. Seigneur, que nous puissions vraiment partager non seulement ce pain et ce vin, mais partager ta vie au quotidien. Amen. Il y a des petites coupelles de vin dans les bords et des coupelles de jus de raisin au milieu. Et ceux qui souhaitent partager la coupe, vous pouvez simplement lever la main. Et pendant ce temps, je propose que vous puissiez librement exprimer des prières, si vous le souhaitez. Et peut-être si quelqu'un a un témoignage ou quelque chose à partager, qu'il le fasse librement. Vous pouvez même venir ici pour qu'on vous entende. Voilà, pendant ou à la fin de ce moment, avant que nous le terminions par une prière ensemble. Alors, oui, mais peut-être que j'invite le groupe des musiques à venir nous aider à distribuer. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu prends des...
Sommes-nous, Seigneur notre Dieu, pour nous présenter devant toi ce matin. Notre Dieu, ouvre nos yeux sur nos limites, notre indifférence, notre péché, et donne-nous de mettre tout cela en comparaison avec ton amour, le sabbat, avec ton amour, ce matin. Que nous puissions vivre ta vie, que nous puissions te connaître réellement, jour après jour, pour manifester quelque chose de ta grâce.
Seigneur, nous voulons vraiment nous y attacher, Seigneur, parce que... Témoigner ce matin de la façon dont nous avons été entourés au moment du décès de Bella, la maman de Santosh. D'abord au cimetière de Grand-Lancy, où tout ce qui a été dit ce matin nous a été rappelé, où nous avons pu entrer dans, dans la logique de Dieu au sujet de ce départ, où nous avons pu recevoir quelque chose pour notre peine, quelque chose pour nos questions, où nous avons pu recevoir de la reconnaissance pour Bella, pour toutes ces années vécues dans la proximité du Christ. Et puis ici l'après-midi. Et la chose qui m'a le plus frappé, probablement parce qu'elle était nouvelle pour moi, c'est ce que vous appelez les honneurs. On défilait devant nous beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui ne nous ont pas serré la main ou fait des gestes convenus, mais qui nous ont regardés. Et frères et sœurs, dans ce regard, il y avait de l'amour. Il y avait de l'amour et il y avait de la compréhension, de la solidarité, de la sympathie avec ce qui nous arrivait. Et ça, je ne vais jamais l'oublier. ça je ne vais jamais l'oublier, le peuple de Dieu s'est joint à nous pour exprimer sa peine, sa compréhension, comme j'ai dit, sa sympathie, mais aussi, je pense, le sens de la victoire du Christ. Et pour tout ça, je veux vous remercier ce matin. Merci.
Je vous propose de terminer ce moment par la prière que Jésus nous a apprise, qui nous invite à la fois à demander, à attendre la venue de son règne et à le vivre aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons passer maintenant à un moment de l'offrande. Pendant ce temps, nous chanterons le chant « Quelle grâce incomparable ». Voilà, nous exprimons aussi notre reconnaissance à travers cette participer à ce qui est la vie concrète de l'Église.
Oui, ça a boulevé pour ceux qui désirent se lever. C'est un chant qui est un peu nouveau, donc si vous ne le connaissez pas, vous n'êtes pas obligé de chanter avec nous, mais j'avais à cœur de chanter ce chant qui chante « Quelle grâce incomparable, qui a l'amour infini », parce que ça résume finalement bien ce qu'a fait Jésus à la croix pour nous.
Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Tu brises le pouvoir du mal de la mort, qui aime ton amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystère. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peurs dans la vérité, et comme le soleil de tout son éclat.
Seigneur, merci pour cette occasion de partager aussi nos biens matériels. Te prions aussi pour la sagesse dans notre Église et dans notre fédération, pour qu'il soit utilisé à bon escient pour partager cette bonne nouvelle que tu es vivant aujourd'hui. Amen. Alors, quelques annonces. Dans la semaine qui vient, notre pasteur Philippe Onchaud et sa famille prendront des vacances. Voilà, de demain jusqu'au lundi suivant. Voilà. Et puis aussi, une nouvelle qui concerne la famille Onchaud. On vous avait dit qu'ils avaient trouvé un appartement, mais on ne leur avait pas annoncé le prix. Et quand le prix est tombé, il s'est avéré être vraiment nettement plus élevé que ce qui était prévu, et ça semble juste irréaliste. Donc ils ont été amenés à renoncer à cet appartement, et c'est vraiment un sujet de prière pour eux, pour l'Église et pour le Conseil, d'autant plus qu'il nous semble très important qu'ils puissent vivre à Mérin, où est le cœur de notre témoignage. Voilà. Alors, au programme de la semaine, mardi soir, prière communautaire. Est-ce que ça se fait dans la salle en bas? Oui, d'accord, en bas. Jeudi 25 avril, il y a la rencontre du conseil. Dimanche prochain, le culte, comme d'habitude, ici à 10h. Et puis le mardi d'après, donc dans 10 jours, 9, voilà, l'atelier biblique, avec la nouvelle série, je crois qu'il y a des flyers pour ça, intitulée « Du carburant pour l'espérance, l'apocalypse aboutissement de tout », avec Philippe Onchaud cette fois. Voilà. Et puis maintenant, quelques annonces que je vais peut-être laisser faire, à moins que Thierry veuille donner des précisions sur l'action « Walk and Play »,« Walk and Pray ». Avec l'idée un peu de prier dans toutes les rues de Genève, mais voilà.
Alors, nous vous avions parlé de cette belle occasion qui nous est offerte de prier pour notre commune, le canton de Genève en particulier, mais nous allons nous concentrer sur Mérin avec quelques dates qui vous sont proposées ici, que vous pourrez probablement retrouver sur le site internet de l'Église, ou alors prenez-les en photo maintenant. Premier rendez-vous pour les courageux, ce lundi 22 avril à 9h30, rendez-vous au CEPOM. Et puis une deuxième occasion la semaine qui vient, le jeudi 25 avril à 18h30, rendez-vous au CEPOM. L'idée, c'est de partir à deux ou trois prier simplement, pas forcément à haute voix, hein, on n'est pas en train de, c'est pas Jéricho qui doit tomber, bien que, mais l'occasion de prier à quelques-uns pendant les jours qui viennent sur la commune de Mérin. Et nous finirons cette boucle par une participation à la belle journée mondiale d'évangélisation en collaboration avec la paroisse protestante de Mérin. Ce sera le 25 mai, c'est juste Thierry.
Voilà, alors oui. Oui. Ok, alors, tout le monde a compris, hein, un culte avec tout le monde, les enfants, ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là ce matin, viendront aussi, voilà. Et
il y a Werner qui voulait dire quelques mots.
Pardon ?
Werner Albisser souhaiterait dire
quelques mots. Ah, Werner ? Ben, si tu as quelque chose à dire, c'est maintenant. Voilà. Après, ça sera trop tard, si tu veux que tout le monde t'entende.
Bonjour, j'étais poussé, c'était pas prévu pour moi aussi, j'étais poussé de témoigner courtement, j'espère. Et bon, Dieu est bon, Dieu est véritablement ressuscité. En deux mots, mes derniers 10 ans où il y a une tuile sur l'autre qui m'est tombée, qui nous est tombée sur la tête. Alors, j'ai l'onction d'huile de foie. Hein. Bon, je vais pas me caresser avec ça. Donc, je suis un mort-vivant, je crois. Et aujourd'hui, je vais merveilleusement bien. Ce n'est pas tous les jours le cas. Continuez à prier pour moi. Mais je voulais vous dire, j'ai un grand Dieu. Et vous savez que la date, l'heure et la seconde de notre vie, Dieu le Père le connaît. Et c'est ça qui m'a encouragé, mais je voulais quand même par moments le rejoindre, mais laisser Denise tout seul, même si ce n'est pas un mari exemplaire, je peux encore m'améliorer. Voilà. Alors, oui, je voulais vous dire, Dieu est bon. Et il est vraiment ressuscité. Amen. Amen.
Voilà, merci Werner. Seigneur, nous te prions, te remettons Werner et Denise. Tu sais les épreuves qu'ils ont traversées. Veuille continuer à les bénir, tous les deux et aussi le reste de leur famille. Les remettons avec confiance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, vous pouvez vous lever pour la bénédiction finale.
Volontiers. Alors. Volontiers. Peut-être je lis le verset biblique et on finit en chantant le refrain du « À toi la gloire ». Merci Claude. J'aimerais remercier et féliciter les enfants. Vous avez été super sages. Et dimanche prochain, n'oubliez pas, il y a un programme spécial pour vous et j'ai entendu quelques bribes, ça va être le top du top. Jean 10, verset 27 à 30. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Qu'il vous garde dans sa présence. Le Seigneur est ressuscité et nous voulons le chanter en entonnant à toi la gloire. Joyeuse Pâques, bonne semaine.